Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur auditeur de Radio Silence. C'est avec beaucoup de peine évidemment qu'aujourd'hui ma chronique numéro 14, Finance Vérité, a pour titre La monnaie destructrice de l'économie générale. Je viens à la suite d'une conversation téléphonique avec la Normandie le 27 août, et d'une visite chez un grand fromager affineur de Bordeaux, de vérifier l'exacte situation de la production en 2009 de nos fromages normands. Cette situation corrobore elle-même l'ensemble de la situation de la production de nos ex-400 fromages français réputés. Je savais que la France voyait toutes ses productions désertifiées dans tous les domaines. Je savais que la situation était grave, pour l'avoir prévu de longue date et avoir suivi de près l'évolution désastreuse, malheureusement prévisible du fait des politiques catastrophiques suivies par les gouvernements successifs depuis 40 ans et surtout depuis 1976. Mais je n'imaginais vraiment pas que le pays d'Auge ne produisait déjà plus que 3 Pont-l'Évêque, un Camembert et un Livaro en AOC, dans 5 ateliers fermiers et 5 ateliers coopératifs non producteurs du lait et sans AOC. La fragilité extrême de la production, à ce jour, de vrais fromages réunissant les 3 critères fondamentaux, au lait cru, moulé à la louche et en AOC fermière, est telle que la disparition totale ne tient plus qu'à la résistance d'une ferme pour le Pont-l'Évêque, d'une ferme pour le Camembert et d'une autre pour le Livaro. Le maître fromager affineur en cave à moins 10 mètres sous Bordeaux me disait qu'il soutient financièrement encore de toutes petites fermes produisant 4 ou 5 fromages par jour pour éviter de voir disparaître à jamais les fromages de ces terroirs uniques, souvent d'AOC limité à quelques prairies. Lors de ma conversation téléphonique avec cette dame qui produit avec son mari, en AOC, un Pont-l'Évêque, j'appris que je pouvais la considérer comme la seule ferme restante produisant encore du vrai, avec 2 ou 3 de ses confrères peut-être. Mes sources sont diverses et personnelles. Le Monde 2, Les gardiens du Pont-l'Évêque, et article du 19 juillet 2009 que vous pouvez retrouver sur Internet. Et un grand nombre de recherches internet diverses. Et puis, on le voit bien, on n'en trouve plus chez les marchés, supermarchés, fromagers, marchands, presque nulle part. Je suis donc littéralement en larmes depuis le 27 août. Et ma visite depuis à Bordeaux, si elle m'a un peu remonté le moral par ma conversation avec le maître fromager affineur, bien connu et seul de son espèce à ma connaissance pour l'Aquitaine, me laisse sans aucun espoir de voir nos fromages français qui faisaient notre richesse bien connue perdurer au-delà de quelques années. Nous n'allons plus avoir dans peu de temps, après les fromages, produit sur du lait de X, préparé par Y et affiné par Z, que des fromages aromatisés artificiellement par un groupe mondial pour donner l'illusion d'une production fermière après avoir été hâtivement fabriqué à base de lait de grand mélange européen, cuit en UHT, ultra haute température, c'est-à-dire stérilisé, c'est-à-dire l'horreur. La vraie production fermière en AOC garantissant le lait de terroir, produit par des vaches de race sélectionnées depuis des siècles, de fromages moulés à la louche à partir de lait cru, ayant donc gardé toutes ses qualités nutritives et gustatives à la ferme même, ne tient plus qu'à 5 familles en pays d'Auge, normand. Alors qu'il y en avait à tous les carrefours, quand je visitais si souvent les Normandies dans les années 60. La gravité de ce constat ne vous échappera pas, je pense. Il est donc de la plus haute importance que tous, Nous n'achetions plus jamais autre chose que ces fromages de qualité produits à la ferme. Il faut impérativement relancer les productions en atelier fermier. Vous pouvez commander en hiver à cause de la chaîne du froid directement chez eux. Camembert, Livaro, Pont-l'Évêque, par Colissimo. Même chose dans toutes les régions pour tous nos fromages encore existants. Bien entendu, n'achetez jamais ces parts de pseudo-camembert emballées individuellement sous des marques euro-mondialistes comme président. Ces ersatz ne matérialisent plus qu'une chose, le pillage de la France. Sa désertification en ces temps de guerre économique de la part des Anglais, des Anglo-Saxons, bien plus encore que de la part des Allemands en 39-45, qui nous ont laissé ce qualificatif révélateur de la situation désastreuse de notre pauvre France, qui n'est déjà plus ce pays de cocagne que tout le monde connaissait encore dans les années 60. La corruption de nos pseudo-élites et leur trahison ont produit leurs effets épouvantables. Bientôt, nous n'aurons plus rien, ni vin, ni fromage, ni viande, ni fruits et légumes traditionnels de la gastronomie française. Et pire encore, le savoir-faire va disparaître sous peu, en même temps que la génération de l'après-guerre, dont je fais partie, et qui avait hérité du savoir-faire ancestral, et qui a été empêchée de transmettre cet héritage par des politiques de haute trahison. J'en pleure. Nous allons donc mourir sans la consolation que France demeure après nous. Mon Dieu, que j'ai peur pour la France et les Français dans un avenir proche. Je hais ces gouvernements républicains de traîtres qui nous asservissent chaque jour davantage aux dictats étrangers. Mon conseil patrimonial du jour, dans l'état actuel des choses dans cette malheureuse France, me paraît de la plus haute importance pour ceux qui en ont les moyens. Il est d'investir dans des productions de terroir, vins comme fromage, fruits et légumes, etc., de haute qualité. N'investir jamais dans toutes ces entreprises qui ne produisent que de la piquette internationale et des ersatz aromatisés par la chimie industrielle, donc dans des produits innommables et infects, même s'ils sont calculés exprès pour vous donner l'impression mensongère, frauduleuse et peut-être bien dangereuse sur le plan de la santé, de vous donner donc cette impression ancienne mais avec du faux. Bref, n'investissez que dans l'authentique, ne consommez que de l'authentique et fuyez les ersatz. Il faut soutenir la France par l'investissement comme par la consommation. Ou sinon, nous sommes morts. Nos petits-enfants ne consommeront plus que du soleil vert, comme dans le film de science-fiction avec le célèbre Charlton Heston. J'ai bien dit pour ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire des moyens importants. Parce que je sais bien que les petits épargnants sont obligés de défendre leur petite épargne et avec combien de mal, mais bon, voilà la ligne idéale. Dans mon histoire de la monnaie, le chapitre 14, nous allons donc faire la suite du 15e siècle et aborder le 16e sous le titre « Une inflation galopante ». C'est donc dans le contexte du 15e que naquit au début du 16e Catherine de Médicis en 1519, fille du grand marchand de Venise Laurent de Médicis, qui servait de banquier au roi de France. À l'euphorie des riches, ivres d'enrichissement, à force de trafic et de spéculation à la baisse de la monnaie, d'or à ce moment-là, s'oppose l'appauvrissement des pauvres, qui, détenteur de petites monnaies sans valeur, se voit obligé d'acquérir toujours plus de pièces d'argent ou d'or pur pour le moindre échange sérieux. La génération des nouveaux pauvres était inventée 5 siècles avant celle de Mitterrand. En France, au cours du règne de Catherine de Médicis, direct ou par régence, la dévaluation de la monnaie d'or atteignit des taux gigantesques, amplifié par la spéculation des plus riches. La livre tournois se dévalua de 4,64 g à 2,57 g, moins 45%. L'équivalente en 1475, sous Louis XI, à 33 sols, elle se retrouve à 65 sols en 1580, moins 97%, accompagnée d'une diminution du poids d'or fin des pièces de moins 72%, de 0,14 g à 0,04 g. Une pièce d'or de 2,57 g matérialise ainsi la livre tournoise et l'écu d'or au soleil, nouvelle formule, alors qu'en 1561, 19 ans avant, le même écu pesait 3,34 g et valait encore 50 sols. Sur le plan monétaire, l'afflux d'or des Amériques fut donc une catastrophe, un peu à la manière de la drogue qui, sur le moment, paraît-il, procurerait soulagement et plaisir, mais qui, par le besoin qu'elle fait naître, la dépendance entraîne la déchéance, puis la mort du contaminé. La France, tout comme les autres pays d'Europe, vit son économie saccagée. Et bien sûr, les manuels d'histoire imputent à tort toute cette misère à notre grande Catherine. Il n'en reste pas moins que de grandes fortunes, et notamment celles des Médicis, furent obtenues à ce moment-là, ou grandies, ou maintenues, par le pillage spéculatif de toutes les ressources de notre pays. On croit lire l'histoire actuelle, n'est-ce pas? En 1716-1718, début du 18e, il faut 24 livres tournois pour faire un écu. Sous cette apparente réévaluation, il nous faut constater l'insignifiance du poids monétaire concret de cette malheureuse livre tournois, ramenée alors à environ 0,11 g, soit une dévaluation de moins 78% depuis Saint-Louis. L'économie, faute de métal argent, souffre donc d'une constriction monétaire aiguë, comme depuis 1960, notre Occident actuel, son manque chronique de liquidité. C'est ce constat de la nécessité de mettre en circulation plus de monnaie qui amena John Law à créer en France la première banque centrale à la demande du roi et chargée d'émettre de la monnaie papier. Mais l'investissement à long terme de capitaux pourtant reçus en dépôt à court terme, ce qu'on appelle la transformation, en trop grande proportion et dans de grandes compagnies commerciales risquées, ce qu'on dit aujourd'hui capital risque, aboutit à la perte rapide du système monétaire des assignats à son début, à la fois par la faillite des compagnies et surtout par les très gros retraits rapides à vue pour une encaisse évidemment trop amincie. Dans notre chapitre suivant, numéro 15, nous étudierons l'essor de la monnaie papier, qui fut la seule réponse trouvée alors aux besoins de monnaie nés des avatars guerriers, des pillages et des trafics des siècles précédents. Notre prochain chapitre, numéro 15, aura donc pour titre « L'essor de la monnaie, reconnaissance de dette ».